Oui, bonjour, ici Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Nous sommes le 6 octobre 2023 et je poursuis la lecture de mon livre intitulé « L'infidélité n'est pas banale ». Nous étions rendus dans le chapitre 3 intitulé « La gestion de la crise » et dans ce chapitre-là, le sous-titre suivant « La thérapie conjugale est un antidote efficace contre la détresse engendrée par la crise de l'infidélité ». Bien, c'est là que nous sommes rendus et je m'apprête à vous livrer ces pages. Pas de doute, il est avantageux de consulter un intervenant compétent durant une crise conjugale suscitée par une infidélité. Celui-ci saura orienter la réflexion vers les zones pertinentes au lieu d'en rester à la périphérie. On peut traverser seul cette crise. Mais l'enjeu est considérable alors que les pièges sont nombreux. Si pour cette raison, dans des circonstances que la consultation en psychothérapie est si utile à quiconque peut se l'offrir. Cette démarche permet non seulement de sauver le couple, mais surtout d'aider chacun à être plus en harmonie avec lui-même et son entourage. Cela est d'autant plus vrai que chez les couples aux prises avec l'infidélité, la dépression est souvent au rendez-vous chez l'un ou l'autre conjoint ou chez les deux à la fois. Or, la thérapie conjugale est un mode d'intervention privilégié dans la dépression quand la personne déprimée vit des problèmes conjugaux. Auparavant, presque tous les modèles d'intervention en dépression s'adressaient individuellement à la personne déprimée et ses conflits intérieurs. Cependant, depuis une dizaine d'années, les chercheurs et cliniciens américains ont découvert l'importance d'intégrer le conjoint dans le traitement de la personne déprimée quand elle vit des tensions conjugales. En fait, les dépressions sont très souvent déclenchées par des problèmes conjugaux. La recherche a démontré que la dépression est plus susceptible de se manifester à la suite d'événements stressants, particulièrement quand on perd un être cher. La rupture de relations intimes est aux premières loges en cette matière. Il a été démontré en effet que ce sont les conflits conjugaux et les ruptures amoureuses qui sont les principaux événements stressants déclencheurs de dépression. On dit que 50% des adultes qui s'adressent à un professionnel pour le traitement de leur dépression souffrent aussi de détresse conjugale. De même, chez 50% des couples en thérapie conjugale, on sait qu'au moins l'un des deux conjoints est en dépression. Cela ajoute à la pertinence d'une thérapie conjugale dans une crise liée à l'infidélité. Or, je crois fermement en la capacité des humains à opérer en eux des changements draconiens. Bien que nous soyons limités par notre hérédité, nous avons tout de même une marge de manœuvre impressionnante. N'oublions jamais que nos gènes transportent en nous des prédispositions et non un destin implacable. On utilise souvent les recherches faites sur des jumeaux identiques pour démontrer l'impact de l'hérédité. Mais ce qui me fascine, c'est exactement le contraire. Malgré un partage intégral du même bagage héréditaire, quand l'un des jumeaux est atteint du diabète ou de la schizophrénie, par exemple, l'autre a moins de 50% de risque d'en être aussi victime. Les jumeaux identiques partagent pourtant, en plus, un environnement biologique et social semblable, du moins au cours de leur enfance. Bien plus convaincant encore, à la naissance, les cerveaux des jumeaux identiques pourtant issues exactement des mêmes cellules d'origine, présentent déjà des différences majeures. L'explication me semble simple. Chaque individu prend continuellement des décisions inconscientes qui influencent le cours de sa vie et ce, dès le moment de sa conception. Le cerveau et tout le corps s'en trouvent modifiés. En fait, l'anatomie du cerveau est beaucoup plus malléable qu'on le croyait. Nos expériences, nos apprentissages et même la qualité de notre environnement engendrent des changements anatomiques au niveau des cellules de notre cerveau tout au long de notre vie. Notre vécu peut donc modifier la structure de notre cerveau. Par exemple, les neurones d'un rat diffèrent s'il est élevé dans un environnement stimulant, au point que son cerveau s'en trouve amélioré. Un exemple parmi d'autres chez les humains, deux points, le nombre de dendrites neuronales du centre du langage dans le cerveau est proportionnel au niveau de scolarité d'un individu. Autrement dit, plus un individu gravit les échelons de la scolarité, plus il active le développement de son cerveau. Et il y a des échanges bidirectionnels constants entre notre cerveau, notre organisme et notre vécu. Ainsi, le bonheur éprouvé en écoutant de la musique s'appuie physiologiquement sur le relâchement de substances opioïdes dans le cerveau. Le calme ressenti à la vue d'un beau plan d'eau s'accompagne d'un accroissement de l'amplitude des ondes alpha au niveau du cerveau. Donc, on se positionne et le cerveau réagit. Nous ne sommes pas à la merci de notre mécanique. D'autre part, on découvre de plus en plus de liens entre des difficultés psychologiques et des manifestations du niveau de fonctionnement du cerveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces manifestations purement biologiques... Je suis obligé de prendre de l'eau, excusez-moi, auditeur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces manifestations purement biologiques peuvent être modifiées par des expériences humaines, comme la psychothérapie, par exemple, sans aucune intervention chimique. Tout ça pour dire que chaque individu maîtrise mieux sa vie qu'on pourrait le croire. Il est souvent injustifié d'accuser son cerveau, ou son hérédité, ou ses parents, ou son conjoint pour nos malheurs. On a avantage à se responsabiliser au maximum en révisant au besoin nos attitudes et en effectuant les changements nécessaires. Dans cet ordre d'idées, je suis estomaqué du nombre de personnes impliquées dans une crise conjugale liée à l'infidélité et qui consomment des antidépresseurs pour soigner leur détresse normale. Elles se croient souvent affublées d'une tare physique alors qu'elles traversent une période pénible de leur vie. Or, il est bon de savoir qu'il existe actuellement un débat sur la pertinence et l'efficacité de la pharmacothérapie en comparaison de la psychothérapie. Certains auteurs, des chercheurs, des psychologues et des psychiatres sont extrêmement critiques par rapport à l'approche pharmacologique de problèmes de santé mentale. Je cite plusieurs auteurs dans mon livre. D'ailleurs, on mène beaucoup de recherches scientifiques rigoureuses pour comparer l'efficacité de la psychothérapie à celle des antidépresseurs. Dans l'ensemble, la psychothérapie se montre aussi efficace ou même supérieure. Par exemple, on pouvait retrouver à la une du USA Today le 22 février 1999 l'affirmation suivante. Les médicaments ne sont pas plus efficaces que la psychothérapie pour combattre la dépression, même s'il s'agit d'une dépression sévère. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs avaient analysé des centaines de rapports de recherche sur la dépression, tout ce qu'ils avaient pu trouver depuis 1958. Une autre recherche, celle-là publiée dans la revue officielle des psychiatres américains, arrivait à la conclusion suivante. Deux points. Scientifiquement parlant, même pour la dépression sévère, les antidépresseurs ne peuvent être considérés comme supérieurs à la psychothérapie cognitivo-comportementale. Les auteurs de cet article affirmaient aussi que les antidépresseurs ne produisent pas de changements plus rapides que les... plus rapides que la psychothérapie cognitivo-comportementale. En plus, un avantage certain de la psychothérapie est qu'elle permet des acquis durables après la fin du traitement, alors que l'effet des médicaments risque de cesser avec la fin de leur utilisation. Une mise en garde pour les couples, deux points, alors que le facteur déclencheur de la dépression est souvent la relation conjugale en souffrance, les antidépresseurs peuvent nuire au fonctionnement sexuel. Cela est de nature à aggraver la relation des couples impliqués plutôt que de les rapprocher, on en conviendra. Aussi, désolant que cela puisse paraître, plus de 70% des consommateurs de Prozac ou de Luvox ou de Paxil ou de Zoloft voient leur libido ou leur niveau d'excitation sexuelle s'abaisser quand ce n'est pas leur capacité orgasmique qui est affectée. Cela est tellement vrai qu'on prescrit maintenant des antidépresseurs aux hommes qui souffrent d'éjaculation prématurée et aux hommes qui sont condamnés pour des crimes sexuels. Je ne dois cependant pas trop discréditer l'utilisation des psychotropes. Un discours plus pondéré ressemblerait aux propos suivants inspirés de Anna, un auteur qui a publié en 2002, deux points. La recherche a démontré que les gens bénéficiaient de médicaments psychiatriques variés. Avec l'aide de ces médicaments, bon nombre de personnes sont mieux équipées pour entreprendre une psychothérapie dans le but de changer des aspects de leur vie pour mieux se sentir. Mais, pour la plupart de ces personnes, la médication n'est pas suffisante et la psychothérapie est nécessaire. Plusieurs recherches ont démontré que la psychothérapie produit des effets plus durables que la médication parce qu'elle apprend aux gens de nouvelles stratégies d'adaptation et de nouvelles habiletés relationnelles. Il faut donc éviter de tomber dans le déterminisme chimique, discours qu'on entend malheureusement de plus en plus en consultation. Un jour, un de mes clients me faisait part de la malchance de sa vie. Selon lui, par un malheureux hasard, les deux femmes de sa vie, son ex-épouse et sa conjointe actuelle, avaient la même composition chimique qui les faisait souffrir d'une défectuosité biologique. Et lui, le pauvre, en avait été la malheureuse victime. Il voulait dire que ses conjointes étaient déprimées et qu'ils n'avaient rien à voir dans leur chimie. Évidemment, en raisonnant comme cela, il excluait l'hypothèse que ses conjointes soient devenues tristes et déprimées à la suite de ses nombreuses infidélités et de ses absences excessives de la maison. La conception biomédicale de la détresse humaine a le fâcheux inconvénient de nous déposséder de notre histoire personnelle, du sens de notre vie, de notre identité et de notre pouvoir d'agir. L'approche pharmacologique dite scientifique injecte chez trop de patients la malencontreuse idée qu'ils sont d'impuissantes victimes de leur biologie et de leur hérédité. Dans le cas d'une crise conjugale suscitée par une infidélité, un travail formidable attend les protagonistes. C'est celui de trouver un sens à cette infidélité et de réagir en conséquence, au lieu de paniquer, de déprimer, de prendre des décisions impulsives et d'accuser le conjoint de façon désinvolte. Cette infidélité annonce-t-elle la fin de la relation conjugale ou est-elle plutôt une occasion unique de travailler sur la relation sur soi et de travailler sur la relation et de travailler sur soi? Point d'exclamation. Ne serait-ce pas un avertissement sérieux pour changer des comportements dysfonctionnels? L'évaluation de ce qui est arrivé doit être bien faite car elle sera déterminante pour la survie du couple. Et c'est ce qui donne fin, ce qui met fin au chapitre 3. Et maintenant, le chapitre 4 s'intitule « L'évaluation de l'infidélité ». Le titre de ce chapitre aurait pu être « La compréhension de ce qui nous arrive ». En effet, avec l'infidélité, il arrive quelque chose qui touche foncièrement les deux partenaires d'un couple. Et le sens de l'infidélité doit absolument être exploré par chacun des deux. Pour faciliter ce travail aux intéressés, je brosse d'abord un tableau sommaire de l'évaluation de l'infidélité dans le présent chapitre en utilisant la formule des grilles d'évaluation, ce qui peut être plus aride à lire. Mais je reviendrai sur tous ces sujets de façon plus approfondie au cours des chapitres suivants. Sous-titre maintenant, premier sous-titre de ce chapitre. La blonde qui induit l'infidélité chez son amoureux. Aujourd'hui, j'écrirai ce sous-titre un peu de façon différente. Je l'intitulerai « L'amoureuse qui induit l'infidélité chez son amoureux ». Une cliente m'arrive en entrevue avec un gros mal de tête de plusieurs jours sans explication médicale. Je connais déjà son conflit intérieur face à l'engagement amoureux. L'amour lui fait tellement peur qu'elle considère sa relation amoureuse actuelle comme non officielle. Elle et son amoureux seraient de bons copains, sans statut officiel d'amoureux et sans promesse de fidélité. Chacun d'eux a ses raisons pour garder cette distance. Pourtant, elle l'aime de plus en plus et il semble que ce soit réciproque. Or, ces dernières semaines, le copain amoureux non officiel s'est absenté de la ville pour son travail. Un soir, il apprend à ma cliente par téléphone qu'il a rencontré une fille insistante dans un bar et qu'il a fini par l'embrasser, mais qu'il regrette ce geste. Prise de désarroi. Ma cliente souffre d'un mal de tête depuis ce temps-là et elle a réagi avec colère en avertissant son copain qu'il avait un choix à faire, ou bien c'est sa liberté, ou bien c'est elle avec la fidélité. Point d'exclamation. Comment comprendre cette réaction Comment comprendre cette réaction imprévue? Pourquoi le copain a-t-il fait ce geste de mini-infidélité qui n'en était pas tout à fait une puisque le couple avait un pacte de non-fidélité? Point d'interrogation. Ma première impression en écoutant ma cliente était que son copain avait fait ça pour la garder. Ce n'était pas par hasard qu'il s'était empressé de confesser ce baiser extra-conjugal. Il connaissait trop bien le besoin de distance de son amoureuse. Celle-ci m'avait confié auparavant que plus son copain était amoureux d'elle, plus elle réagissait par la froideur. Pour que la relation puisse durer, une distance optimale était donc nécessaire, sans quoi l'anxiété gâchait la sauce. Trop d'intimité et d'amour aurait débouché sur une séparation. On retrouve ce pattern à différents degrés, même chez les couples mariés, et bien souvent, les relations extra-conjugales ont justement pour fonction d'assurer une certaine distance perçue intuitivement comme nécessaire par l'infidèle. Nouveau sous-titre, les incitatifs d'infidélité répertoriés chez une quinzaine de sommités. Alors, je vais m'arrêter ici et c'est là que j'entreprendrai le prochain épisode de Psycho Balado. Donc, chers auditeurs, c'était Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Vous pouvez avoir plus de renseignements sur qui je suis en allant consulter mon site internet www.dalpecote.com et au plaisir de... je viens toujours pour dire au plaisir de se retrouver. C'est une drôle de formule pour quelqu'un qui est en train de monologuer, mais au plaisir de refaire un nouvel épisode. À bientôt.